Samuel Harrison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat conseil chez Duhamel Blimbaum. On va parler avec vous d'épargne salariale, hein, notamment à l'issue de la fameuse loi Macron. Il y a eu notamment un certain nombre d'avancées sur cette épargne salariale. Qu'est-ce qui vous semble important, vous, sur ces nouvelles mesures? Il y en a beaucoup, on va revenir en détail, mais est-ce que véritablement il peut y avoir un nouvel élan pour l'épargne salariale?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, la loi Macron a plusieurs objectifs. D'abord, de simplification des accords des dispositifs d'épargne salariale, puisque c'est une matière assez complexe, nonobstant justement les efforts de simplification de la loi. Et il y a un réel effort pour inciter les PME à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale, des mesures incitatives d'ordre fiscal, d'ordre social. Et voilà, c'est l'avancée. C'est, si vous voulez, il y avait une carence au niveau du marché de l'épargne salariale. C'est que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y avait plus que 16% de salariés qui étaient touchés par un dispositif d'épargne salariale. Et donc, à cet égard, voilà, c'était là où la loi Macron est venue apporter donc des mesures pour inciter les PME à mettre en place ce genre de dispositif.
Pour simplifier, on peut dire que les grandes entreprises, le CAC 40 forcément, et les grosses PME aussi, avaient ce type de dispositif déjà pour leurs salariés, mais dès
Exactement.
qu'on descendait un petit peu plus loin, PME, ETI, ce n'était pas toujours le cas.
Exactement, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on a donc changé fondamentalement? C'est d'inciter ces entreprises. Sur la fiscalité, on a joué sur quel levier?
Alors en fait, en réalité, il s'agit d'incitations d'ordre social, puisque toutes les rémunérations, l'intéressement, la participation, l'abondement, eh bien, sont passibles de ce qu'on appelle le forfait social, hein, qui avait été créé en 2008, qui a été en croissance exponentielle pour atteindre 20%, qui a pu être considéré par certains comme un frein, eh bien, à l'incitation, dont justement de mise en place des dispositifs. Et là, nous avons des incitations à ce niveau-là, où le forfait social baisse de 16% pour les entreprises sous certaines conditions et jusqu'à 8% pour les PME dont on parlait tout à l'heure, dès lors qu'elles mettent pour la première fois un dispositif d'intéressement et de participation. Voilà, donc il y a un réel effort à ce niveau-là, et sachant en plus que j'ai l'habitude de dire que eh bien, les chefs d'entreprise, dès lors qu'ils ont conscience qu'eux-mêmes peuvent bénéficier d'accords d'épargne salariale, dès lors qu'ils rentrent dans un cercle vertueux où ce qu'ils versent d'un côté au niveau de l'abondement, eh bien, ils peuvent le déduire de l'autre au niveau de leur résultat imposable, eh bien, tout cela concourt aussi effectivement à cet effort vers l'épargne salariale.
Aujourd'hui, on parle effectivement pour les salariés du PERCO, hein, du fameux PERCO. On voit aussi des mesures pour, où jusqu'à présent, l'entreprise mettait de l'argent, le salarié mettait de l'argent, l'entreprise abondait, et où là, finalement, l'entreprise elle-même va pouvoir le faire sans que le salarié, parce que parfois, il y a peut-être le salarié ne peut pas, abonde.
Exactement. C'est une mesure phare, c'est de favoriser eh bien, l'alimentation du PERCO. Il y a plusieurs canaux, il y a celui donc que vous citez, c'est-à-dire que indépendamment du versement du salarié, eh bien, l'employeur peut de manière périodique verser donc cette aide complémentaire, ce qu'on appelle l'abondement. Alors sous certaines réserves, il y a un décret qui risque de paraître bientôt pour eh bien, clarifier le montant donc, de l'abondement et aussi la périodicité. Mais effectivement, c'est un canal nouveau d'alimentation du PERCO, bien sûr.
Alors, on le sait aussi, quand il y a ce type de mesures, il y a des placements, la gestion, bien sûr, de portefeuille est concernée, avec en général, pour le salarié, c'est du monétaire. Et là, il y a eu un changement aussi de ce côté-là, où on va mettre de la gestion pilotée, c'est-à-dire on va tenir compte finalement de l'âge du salarié par rapport à son échéance de retraite.
Exactement. Il est très important de dire que l'épargne salariale, au-delà de ces dispositifs juridiques, eh bien, au-delà de cette épargne que l'on verse derrière, il y a des fonds comme un placement d'entreprise qui peuvent être assez obscurs pour le salarié qui n'a pas forcément la culture d'investisseur. Donc il a le choix entre la gestion libre et la gestion pilotée. Aujourd'hui, donc nous avons la gestion pilotée comme affectation par défaut de l'épargne lorsque le salarié ne sait pas trop dans quel support d'investissement bien investir. Il se met en place la gestion pilotée où, comme vous l'avez dit, effectivement, en fonction de l'horizon de placement et l'horizon de retraite, retraite, eh bien, si vous voulez, plus on est loin de l'horizon de retraite, plus l'investissement sera investi dans des placements, on va dire, plus risqués, et plus on se rapproche de l'horizon de retraite, et plus ce sera sécurisé, effectivement.
Donc on retrouvera peut-être dans les portefeuilles, effectivement, des actions, par exemple, alors que jusqu'à présent, on était dans le monétaire immédiatement. Là, si le salarié a une échéance assez lointaine, il se retrouvera avec des actions.
Exactement, et je serais tenté de dire aussi qu'il y a un pari coché, un impact très positif pour l'économie, puisque il faut rappeler que l'épargne salariale favorise le financement de l'entreprise, de l'économie française. Si nous avons un déplacement de l'épargne qui était affectée originellement vers le monétaire, vers les actions, ce sera d'autant plus favorable pour le financement des entreprises, effectivement, via les actions.
Alors là, on va trouver, vous parliez de fiscalité, des pourcentages de forfait, ce forfait social qui va être diminué si on va justement sur ces fameuses PME, ETI, si on investit dans le cadre, par exemple, de fonds éligibles PEA, PME.
Exactement. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est que les PME vont trouver, à travers l'épargne salariale de manière indirecte, une nouvelle source de financement à côté du crédit. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise montera en place un dispositif de PERCO et qu'il proposera comme fonds, comme support de placement, un fonds investi à 7% dans des titres de PME et ETI, il disposera effectivement d'une réduction du forfait social de 16%, qui est un effort considérable, effectivement, et très incitatif.
Aujourd'hui, de votre point de vue, vous sentez que ces nouvelles mesures peuvent apporter un vrai élan à l'épargne salariale, donc à la gestion aussi concernée par ça, avec ces PME qui pourraient peut-être basculer dans ce système, qui pour l'instant peut-être hésitaient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure?
Alors, il y a des signaux positifs. Au premier semestre 2015, il y a 120 milliards d'encours sous gestion d'épargne salariale. Nous avons une hausse du PERCO de 22%. Je ressens effectivement plus de questionnements. Vous savez, l'adage selon lequel plus on a d'informations, plus on a de solutions, ne s'applique que trop bien à l'épargne salariale. Puisqu'on a entendu cet été en toile de fond la loi Macron, les chefs d'entreprise aujourd'hui nous posent des questions sur ces dispositifs qui leur sont favorables. Oui, tout à fait.
Donc ils vont effectivement s'y intéresser et nous on suivra ça sur la partie des encours. Merci Samuel Harrison d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci, au revoir.